Le Brésil a retrouvé pour un troisième mandat une de ses icônes, Lula, qui a battu Jair Bolsonaro, mais d'une courte tête. Prenant ses fonctions le 1er janvier, tout semblait baigné jusqu'au 8 janvier, où on a vu des images d'une prise d'assaut des institutions à Brasilia, dans la capitale, qui ont fait repenser à la prise d'assaut du Capitole il y a un an par les partisans de Donald Trump. Lula va relever toute une série de défis, vous allez l'entendre, le pourra-t-il ? Virginie Jacoberger l'avoué, a produit son livre « Voyage au pays de Bolsonaro ».
La première, le fin mot, Eddie Kakelbergs.
Je voudrais dire que toutes les personnes qui ont fait cela seront retrouvées punies. Ces personnes, ces vandales qu'on pourrait appeler nazis fanatiques, stalinistes, ont fait ce qui n'avait jamais été fait dans l'histoire de ce pays. Et c'est pour cela qu'ils devront être punis. Nous allons découvrir qui a financé ces actions, qui a financé ces vandales qui sont allés à Brasilia. Et tous vont faire face à leurs responsabilités et devront répondre devant la loi pour ces gestes antidémocratiques de vandales et de fascistes.
Vamos retomar o monitoramento e a vigilância da Amazônia.
Nous allons établir une surveillance vigilante de l'Amazonie et lutter contre toute extraction illégale de minerais, l'extraction de bois ou le défrichement pour l'agriculture. En même temps, nous allons promouvoir le développement durable dans les communautés de l'Amazonie. Nous allons prouver, une fois de plus, qu'il est possible de générer de la richesse sans détruire l'environnement.
Je gouvernerai pour tous en regardant vers notre brillant avenir commun et non dans le rétroviseur d'un passé de division et d'intolérance.
Le Brésil est ma cause. Les gens sont ma cause. Combattre la misère est ma raison de vivre jusqu'à mon dernier souffle.
Obrigado.
Merci.
La première. Le fin mot. Eddie Kakelbergs.
Bonsoir Virginie Jacoberger-Lavoué.
Bonsoir.
Force est de reconnaître que si le 1er janvier à la prestation de serment de Lula, on s'est dit « ouf, rien ne s'est passé », 7 jours plus tard, c'était Trump x2 ou x3.
Oui, on peut vraiment dire que c'est vraiment la reprise de ce qui s'est passé le 6 janvier à Washington, donc l'assaut du Capitole, avec les événements du 8 janvier à Brasilia. Je pense qu'on peut vraiment dire que ce 8 janvier va marquer l'histoire du Brésil contemporain, qui est quand même une jeune démocratie qui est donc sortie d'une dictature militaire seulement en 1985. Il ne faut jamais l'oublier. Écoutez, ces événements, je pense que c'est extrêmement frappant. Le parallélisme, ça a été beaucoup souligné dans les images qu'on a vues. Et vraiment, il est même frappant, on peut dire, dans plein d'éléments, dans la manière dont se sont comportés ces émeutiers, que pour ma part, je pense qu'on peut qualifier de putschistes, même si on ne peut pas vraiment qualifier l'événement en soi comme un putsch. Mais en revanche, on voit bien que c'est une tentative sans précédent de déstabilisation de la démocratie brésilienne, avec une attaque quand même des trois symboles, des trois pouvoirs, hein, à la fois le Congrès, à la fois ce qu'on appelle au Brésil le Planalto, qui est l'équivalent du palais présidentiel, et puis le tribunal, qui en fait est l'équivalent d'une cour suprême, donc la plus haute juridiction au Brésil. C'est ces trois pouvoirs qui ont été attaqués lors de l'insurrection du 8 janvier.
En s'attaquant à ces trois symboles majeurs de l'État, il y a un message qui est délivré. Vous ne ferez rien, vous ne ferez rien sans nous. On peut se contenter de se dire que le mouvement a été enrayé, mais cela, cumulé aux urnes, dit quand même quelque chose de profond sur l'état politique du Brésil.
Tout à fait. En fait, on le savait dès les... Vous voyez, j'étais pour les échos sur place pour les élections. Donc, c'était des élections à 2 tours au mois d'octobre. Bon, on savait en fait dès le résultat que ça allait être compliqué. Pourquoi ? Parce que d'une part, de la même manière que le mandat de Trump a quand même bousculé l'Amérique, qui est totalement fracturée, cette polarisation existe depuis l'élection de Jair Bolsonaro, mais aussi son mandat n'a cessé que d'amplifier cette fracture. Je m'explique, de la même manière que Trump, et je pense que c'est une des caractéristiques qu'on voit chez les leaders populistes ou autocratiques, on le voit aussi chez Erdogan, c'est une manière de ne gouverner que pour son clan et donc de diviser encore plus profondément la société brésilienne. Ensuite, il faut quand même rappeler que Lula da Silva voilà, entame un troisième mandat, mais avec une victoire de justesse. Il a été élu à 50,9% des voix, donc c'est peu, avec un Bolsonaro qui, malgré un bilan de son mandat totalement effroyable, je pense notamment à la crise de la gestion du Covid, à un certain nombre de thèses complotistes qu'il a accompagnées, les décrets sur les armes dans une société qui était déjà, pour connaître le Brésil quand même depuis un certain nombre d'années, c'est quand même déjà une société extrêmement violente. Donc ces décrets ont encore amplifié ce courant, mais avec un mandat où il a aussi constitué, il ne faut jamais l'oublier, plus de force. Et c'est là où Lula va avoir aussi des problèmes, puisque notamment au Congrès, donc Chambre des députés, Sénat, les forces conservatrices sont plus fortes qu'avant. Et d'ailleurs, même à l'élection présidentielle, Bolsonaro a gagné plusieurs millions de voix par rapport au premier mandat, avec un bilan quand même catastrophique. Alors pourquoi ? On peut l'expliquer de manière très rationnelle. D'abord, il a des partisans, il a un socle politique qui est très fort, qui pesait déjà plus de 30% de la société. C'est ce qu'on a appelé les fameux BBB. Donc il y a B pour balle, donc ça c'est les pro-armes dont on vient de évoquer brièvement pourquoi ils ont continué à voter pour Bolsonaro, parce qu'il a fait passer des décrets favorisant davantage le port d'armes. Donc évidemment, pour eux, c'est le bilan du mandat était très positif. Ensuite, il y a le courant évangélique. Le Brésil est un pays catholique, mais qui l'est quand même de moins en moins. Et quand on voit les projections des courants évangéliques dans le pays, c'est quand même phénoménal. Avec, en plus, d'une certaine manière, dans ces courants pro-Bolsonaro évangéliques, une infiltration dans des zones populaires qui, historiquement, votaient plutôt à gauche, donc le Parti des travailleurs de Lula, ou d'autres partis à gauche, mais en tout cas à gauche, et qui ont viré plutôt vers l'extrême droite. Je dis l'extrême droite avec une certaine réserve parce qu'il faut voir que l'échiquier politique brésilien n'a rien à voir avec le nôtre, mais quand même, on voit dans les caractéristiques de Bolsonaro que ce n'est pas simplement un conservateur, c'est un ultra-conservateur et qu'il a toutes les thèses de l'extrême droite et d'ailleurs des adéquatances avec l'extrême droite internationale. J'aimerais rappeler à ce propos que quand on parle, le parallélisme avec l'assaut du Capitole, je pense qu'il faut vraiment le faire. Ce qui s'est passé au Brésil est extrêmement grave. Ne pas oublier qu'on a Bolsonaro aujourd'hui qui, lui, est en Floride, donc qui a quitté le pays, ce qui est quand même assez incroyable pour un chef d'État. Bon, on sait qu'il y a des poursuites judiciaires, donc on comprend quand même assez vite pourquoi il est parti. Mais en plus de ça, il y a vraiment beaucoup d'accointances entre son clan, notamment ses fils, et tous les soutiens de Donald Trump. Donc on sait qu'on a surnommé Bolsonaro le Trump tropical, mais ça va au-delà de ça. C'est-à-dire que même les cercles qui sont autour, il faut voir que Bolsonaro n'a cessé de gouverner comme Trump, avec une vision totalement clanique du pouvoir, c'est-à-dire avec ses fils. Et il y a notamment un fils, Eduardo, qui, lors de l'assaut du Capitole à Washington, était sur place. Et il ne faut jamais oublier que ce fils, non seulement il était sur place, mais sa seule réflexion sur les réseaux sociaux, ça a été de dire que c'était bien dommage que les manifestants n'étaient pas assez armés et organisés pour vraiment prendre le pouvoir. Donc ça donne un peu la mesure de sa pensée. Et par ailleurs, vous savez, quand Donald Trump a été retiré des réseaux sociaux à la suite de la prise du Capitole sur ses positions, notamment de Twitter, il faut savoir que Eduardo, qui en plus est un élu politique, donc un élu politique qui enlève de son compte le drapeau brésilien pour mettre le drapeau américain avec la tête de Trump, ça s'était quand même jamais vu. Et il l'a posé même en treillis militaire. Donc on voit quand même vraiment que la volonté de déstabiliser... Et d'ailleurs, lui, il avait toujours en fait été très présent sur les réseaux sociaux. Il faut savoir que dans l'entourage de Bolsonaro, il y a un peu plusieurs positions. Vous savez que lui a vraiment reconnu la victoire de Lula da Silva à demi-mot. Dans ses fils, il y en avait certains qui étaient sur cette position-là, puisqu'il y a quand même une élection qui a été très bien, enfin qui a été incontestable, que même les partisans de Bolsonaro ont reconnu comme incontestable. C'était un scrutin plus électronique, donc très honnêtement, les fraudes, il y en a sans doute moins que dans d'autres systèmes électoraux. Mais il y avait aussi beaucoup de divisions dans son entourage, et notamment un de ses fils, donc les fils qui sont vraiment les plus radicaux, Eduardo et Carlos, qui gèrent les réseaux sociaux, eux n'étaient pas du tout pour reconnaître, même pas à demi-mot, la victoire de Lula. Et il y a eu donc cette volonté d'entretenir un climat quand même de déstabilisation. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a une enquête qui est ouverte contre Bolsonaro sur ses liens présumés, puisque là, c'est au stade de l'enquête, sur les événements du 8 janvier à Brasilia.
Vous nous évoquiez tout à l'heure qu'il s'agissait à la fois de putschistes, mais pas d'un putsch. Pourquoi ?
Alors, je dis putschistes parce que dans la mesure où ces émeutiers, quand on regarde comment ils sont réunis, donc il y a eu des soutiens financiers. D'ailleurs, les enquêtes sont en train de creuser qui les a soutenus puisqu'ils sont arrivés en bus. Il y a eu aussi la non-intervention des forces armées, donc qui pose beaucoup de questions. Mais aussi ces émeutiers qui sont rassemblés sur les réseaux sociaux, on peut dire que c'est la fange la plus radicale des bolsonaristes. Et pourquoi je dis des putschistes ? Parce que, en fait, c'est quand même ce qu'ils ont revendiqué. Alors, effectivement, quand on les voit, il y a encore des parallélismes avec la prise de Capitole. Voilà, ils ont tout saccagé, ils descendaient du congrès du mobilier comme si c'était un toboggan. Enfin, c'est quand même aussi un comportement totalement puéril. Et on voit quand même que dans ces émeutiers, c'est une partie de la population quand même un peu bas de plafond. Pardonnez-moi l'expression, mais je pense que quand même, il y a vraiment ça. Et pourquoi je dis qu'ils ont des volontés de putschistes ? Parce que quand même, ça, ils l'ont revendiqué, y compris ce qui est intéressant depuis, on le sait un peu à travers l'enquête, dans certains réseaux sociaux, puisqu'ils ont essentiellement communiqué par WhatsApp, par Telegram, donc des réseaux fermés de messagerie, certains comptes s'appelaient comme c'est un peu prise de pouvoir, on va prendre le pouvoir, voilà, le pouvoir est à nous, donc ça dit quand même beaucoup de choses. Et vous voyez bien que les putschistes, notamment ceux qui étaient au Congrès, qui ont énormément saccagé, mais enfin ceux du Plan Alto aussi, donc du palais présidentiel, ont aussi saccagé beaucoup de choses, c'est plutôt la cour suprême, enfin le tribunal qui a été un peu plus épargné. Ce qui est quand même incroyable, c'est qu'ils ont fait un appel à l'armée. Eux, ils voulaient quand même un renversement du pouvoir. Donc dans ce sens-là, je pense qu'on peut vraiment dire que ces émeutiers, c'est des putschistes, dans la plupart. En tout cas, ceux qui sont vraiment, vous voyez l'enquête, on dit qu'il y a eu à peu près 1200 personnes qui ont participé à la manifestation. Il y a eu 400 arrestations avec des dossiers plus ou moins lourds. Il y en a 38 du très très lourd, qui sont un peu des leaders organisateurs. Et il ne faudrait pas minimiser cet événement. Après, ceci étant, je pense qu'il faut aussi dire que ça n'a pas été un coup d'État organisé, puisque un coup d'État par définition, et l'Amérique du Sud est quand même assez commune dans son histoire de ce type de coup d'État, et d'ailleurs on l'a vu sur les images, c'est une période tout à fait particulière. En général, quand vous prenez le pouvoir, vous voulez d'abord enlever le chef et les personnes qui gèrent le pouvoir, à savoir les trois pouvoirs. Là, pour le coup, le Congrès était fermé, n'était pas en session, et Lula da Silva, le président, heureusement pour lui d'ailleurs, n'était pas là, il était dans une localité proche de San Paolo, suite à des inondations massives et des dégâts sur place pour aller voir la population, secourir la population. Vous voyez, ce n'était pas organisé avec l'armée comme un coup d'État, entre guillemets, classique. Donc, dans ce sens-là, je pense qu'il faut vraiment le distinguer. Il faut voir aussi que l'armée... Alors, aujourd'hui, il y a une enquête qui est ouverte. Il y a quand même un certain nombre de compromissions. C'est souvent... surtout la police fédérale qui est visée. L'armée... Il y a sans doute eu des compromissions, puisqu'on sait qu'avant, il y avait des campements de manifestants que l'armée avait dit « non, c'est pas la peine d'intervenir », etc. Mais on peut dire que globalement, pour ce qui est de la direction donc des trois armées, il y a vraiment une position de l'armée au Brésil qui est très légaliste. Donc elle a reconnu dès le départ la victoire de Lula. Et vous voyez bien que même les militaires qui sont intervenus lors des événements, personne n'a pris le parti. Il y a peut-être eu des mouvements qu'on a un peu laissé faire avant la manifestation, mais lors des événements, pour le retour à l'ordre, il n'y a eu aucune position de l'armée qui a essayé de favoriser les manifestants, bien au contraire. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ont reproché ensuite les manifestants, puisque vous savez, maintenant, c'est quand même incroyable, parce qu'on a déjà vu ça avec les émeutiers au Capitole, c'est des gens qui quand même s'attaquent aux symboles de la démocratie, des pouvoirs, et s'étonnent que d'un seul coup, on va les mettre en prison. C'était quand même assez aberrant. On voit les bolsonaristes qui ont été arrêtés. Bon, il y en a beaucoup d'abord qui disent vraiment qu'eux, ils sont pour, même quand ils sortiront, poursuivre la guerre civile. Donc c'est bien pour ça que je dis qu'il ne faut vraiment pas minimiser leur rôle. D'un autre côté, on voit aussi qu'ils sont quand même totalement à côté de la plaque, quoi. Je ne vois pas trop ce qu'on peut dire d'autre, parce que vous voyez bien que dans les réactions, donc c'est vrai aussi qu'il y a eu des gens de la classe moyenne qui sont liés à ce mouvement quand même extrêmement violent, hein. Je le rappelle, il y a des policiers qui ont été attaqués, qui ont été tabassés. Il ne faut pas du tout minimiser ce qui s'est passé. Mais il y avait aussi des gens qui étaient un peu entraînés dans ce mouvement-là, qui le lendemain ont dit bah, ils ne comprenaient pas pourquoi ils étaient arrêtés, ils étaient emprisonnés, pourquoi ils n'avaient pas la Wi-Fi, vous voyez. Donc, je veux dire, on en arrive à des aberrations. De la même manière que je me souviens très bien, alors ce n'est pas ma partie, la politique américaine, mais il y avait quand même aussi ça dans l'après-enquête du Capitole. Je me souviens très bien qu'il y en a certains qui ne comprenaient même pas pourquoi ils étaient emprisonnés, quoi. Donc, parce que je pense qu'il n'y a aussi pas la conscience de ce que c'est de s'attaquer au symbole de l'État. C'est extrêmement grave. Et d'ailleurs, ce climat est extrêmement grave et risque de le rester un peu pour le Brésil, parce qu'on voit bien qu'il y a une fange extrémiste qui est quand même sur cette ligne. Après, ce que je dirais d'assez positif, c'est que ces événements donnent quand même une certaine stabilité aujourd'hui à Lula, s'il gère bien ce qui s'est passé, puisqu'on voit bien qu'il y a eu une reprise en main nette. Il y a eu une condamnation absolument totale de tous les partis politiques. Donc ça, c'est plutôt bien pour lui, puisqu'il va chercher des alliés au Congrès pour passer un certain nombre de décrets, puisqu'il n'a pas la majorité au Congrès, et qu'il a besoin d'alliés politiques. Et on voit aussi que, par ailleurs, il y a eu une condamnation mondiale. Tous les chefs d'État ont condamné, sans exception, y compris jusqu'à la Chine, tout le monde a condamné ce qui est les événements du 8 janvier. Donc Bolsonaro se trouve complètement isolé, avec une fange complètement radicale qu'il soutient. Mais c'est tout. Et j'aimerais rappeler que depuis les événements, il y a eu un sondage qui a été fait, je crois, à peu près 24 heures, ou peut-être même le lendemain, mais ça a été publié 24 heures, sur la perception de ces événements. Le sondage de notamment Folha disait que 93% des Brésiliens condamnaient fermement et étaient choqués par ce qui s'est passé le 8 janvier. Donc ça veut dire que même des électeurs, il ne faut pas confondre les électeurs de Bolsonaro, puisque vous voyez, par exemple, on n'en a pas parlé tout à l'heure quand je parlais des pro-armes, des évangéliques, il y a aussi les pro-agro-business, donc c'est le troisième B pour bœuf, mais plus précisément c'est l'agro-business, qui a fait énormément de bénéfices, parce que Bolsonaro a favorisé tout ce qu'il était possible de faire, et on le voit bien à travers la déforestation. Donc cette partie-là est pro-Bolsonaro, c'est pas pour autant que c'est des gens qui appellent à un putsch et un renversement du pouvoir politique, quoi. Donc on n'en est pas du tout là. Mais ce qui est certain, c'est que le troisième mandat de Lula va être extrêmement périlleux. Et que la société est très fracturée tout de même.
Oui, mais précisément, un mot pour terminer sur cette dynamique-là. On sait que Lula cultive plutôt ses attaches auprès des minorités raciales, minorités indigènes, les pauvres des favelas, la population LGBT, etc., etc. Est-ce que l'on peut dire que les deux Brésils qui s'affrontent, c'est le Brésil des défavorisés versus l'appareil?
Non, pas du tout. Justement, je pense qu'il faut sortir de ça. C'est sûr qu'il y a une élite, celle de l'agrobusiness, c'est plutôt quand même des propriétaires terriens très aisés qui, effectivement, sont pro-Bolsonaro. Mais, par exemple, dans les classes populaires, hein, vous savez, les évangéliques, c'est souvent au contraire. D'ailleurs, le travail des évangéliques, là où ils ont bien réussi, c'est que, justement, ils sont allés dans les favelas, ils sont allés là où l'État n'intervenait plus, ils sont allés là où l'Église aussi, catholique, n'intervenait plus. Donc, ça veut dire qu'il n'y avait plus en fait de lien social. C'est eux qui ont joué ce lien social. Et aujourd'hui, d'ailleurs moi, pour avoir quand même interrogé pendant la campagne, mais aussi pour mon dernier livre, donc à savoir depuis le premier mandat de Bolsonaro, beaucoup de pro-Bolsonaro, vous voyez très bien que, on va dire, les moins radicaux sont souvent quand même plutôt le côté agro-business, parce qu'eux, ils voient leur intérêt économique. La schématise, hein, parce que bien évidemment, vous avez aussi des radicaux dans ce courant-là. Voilà. Les pro-armes, autant vous dire que c'est quand même plutôt pas des enfants de cœur. Hein. Il ne faut pas non plus oublier que dans le clan de Bolsonaro, il y a beaucoup de liens avec justement la police, avec tout ce qui est les milices paramilitaires qui ont quand même beaucoup de pouvoir localement, par exemple dans l'État de Rio. Donc tout ça, c'est quand même un problème pour le règne de l'ordre. Mais pour ce qui est du vote, il y a aussi un vote populaire pour Bolsonaro. Hein. Moi, j'ai rencontré énormément d'évangéliques qui le voient comme un sauveur et qui, encore aujourd'hui, malgré un bilan désastreux, parce que je vous rappelle que le Covid au Brésil a fait plus de 700 000 décès, et que c'est une population très jeune. C'est un pays de 215 millions d'habitants, certes, mais avec une population très jeune. Donc, par rapport à la démographie du pays, on n'aurait jamais dû arriver à des chiffres pareils. Et pourquoi ? Parce que, comme Trump, en fait, Bolsonaro a complètement, vous savez, pendant longtemps, il en a parlé comme d'une grippette, il était anti-vaccin. Et il y a toute cette fange aussi très complotiste, quoi, qui sont contre les vaccins. C'est pour ça qu'il faut quand même parler aussi vraiment du saccage de l'extrême droite au Brésil, parce que c'est ce qui s'est passé avec le mandat de Bolsonaro. Je trouve aussi qu'une des caractéristiques, parce que finalement, si on fait le parallèle avec quand même Trump, on voit quand même qu'à travers un mandat, ben, l'extrême droite ou l'ultra-conservatisme américain, le bilan est tellement effroyable que quand même, il n'arrive pas à gagner un second mandat. Vous savez, Bolsonaro, il faut aussi dire qu'il a perdu sa victoire. C'était aussi un échec cuisant parce que depuis que le Brésil est une démocratie, il n'y a jamais eu un président élu qui était candidat, qui n'a pas été réélu. Donc pour lui, c'était quand même une claque monumentale. Et ça prouve bien aussi qu'il y a un échec de son bilan, hein, qui était quand même assez effroyable. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas des partisans. Aujourd'hui, vous voyez, il y a quand même une enquête parlementaire. Là aussi, on peut faire le parallélisme avec ce qui s'est passé lors de l'assaut du Capitole, qui est ouverte contre Bolsonaro. Donc il y a quand même un certain nombre de poursuites qui vont s'engager. Il y a déjà un certain nombre de choses qui ont été actées. Il y a un certain nombre de charges qui sont retenues. Donc il y a notamment le gouverneur du district fédéral, Ibanez Rocha, qui lui a été suspendu immédiatement de ses fonctions, même si lui a vraiment dit qu'il n'avait aucune connivence avec les manifestants. Il est suspendu pendant quand même 90 jours, je crois. Donc maintenant, ça suit son cours. Pourquoi ? Parce qu'on lui reproche un certain nombre de choses et surtout de ne pas être intervenu. Aussi de sa proximité avec Augusto Vieira, qui est l'ancien commandant de la police militaire du district fédéral, qui lui est aujourd'hui en prison. Et à ceci s'ajoute l'arrestation de Anderson Torres, qui était en fait l'ex-ministre de la justice de Bolsonaro. Vous savez, on en a parlé juste après les événements. Il y a un certain nombre de personnalités, dont lui, qui était parti en Floride, là où étaient Bolsonaro et un certain nombre de partisans très proches. C'est simplement la justice lui a demandé. Il n'y a pas eu de mandat international. Il n'y a même pas eu besoin de ça, parce que simplement, ils ont dit que s'il ne se présentait pas, ça serait lancé. Donc, il est revenu. Et immédiatement, quand il est arrivé sur le sol brésilien, il a été arrêté avec des charges extrêmement lourdes. Pour quelle raison ? Parce qu'en fait, on a notamment retrouver un document, et c'est pour ça que je pense que même si on ne parle pas de putsch dans le sens de coup d'État militaire, il faut parler d'une très grave tentative de déstabilisation de l'État, parce que notamment dans les documents qui ont été retrouvés à son domicile, dans la préparation de ces manifestants, on a découvert des documents, en fait les manifestants. Leur objectif, c'était de prendre les trois pouvoirs, d'appeler l'armée à la rescousse pour vraiment intervenir, les soutenir, à ce moment-là de déstabiliser les forces politiques en signant un décret qui permettait d'invalider les élections. Alors c'est complètement ubuesque, hein, par rapport au respect des institutions, et jamais ça pourrait se passer comme ça si vraiment vous interrogez n'importe quel spécialiste du droit brésilien. Mais en tout cas, c'était ça leur objectif. C'était, voilà. Donc, ça veut dire aussi que c'était extrêmement planifié. Donc lui, par exemple, sur la possession de ces documents extrêmement compromettants, donc faisant état d'un décret pour en fait invalider les élections, lui a simplement vraiment dit que c'était des documents d'enquête, évidemment qu'il n'avait aucune compromission. De la même manière qu'aujourd'hui, les avocats de, puisque quand même, ça, on voit vraiment que le terrain judiciaire, ça suit son cours. Les avocats de Bolsonaro ont déjà déclaré que oui, il avait fait quelques déclarations sur le soutien à ses partisans, mais que ça n'avait rien à voir avec les émeutiers du 8 janvier. Toute la question sur son implication, on voit quand même qu'une enquête, quand pour être motivé sur cette terminologie-là, c'est bien parce que dans l'enquête, il y a un certain nombre d'interrogations sur les liens et sur les compromissions de l'ex-président et de son entourage.
Merci pour ce portrait d'un Brésil au minimum fracturé et des enjeux de ce qui s'est passé le 8 janvier dernier et que nous continuerons à suivre dans ce voyage au pays de Bolsonaro dans lequel vous nous aviez aussi convié, Virginie Jacoberger-Lavoué. Merci beaucoup.
Merci à vous.